Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
8h à Bandiagara, la même heure à Koro et à Bankas. Mesdames, Messieurs, bonjour, voici le titre de cette édition. La semaine nationale de la réconciliation a démarré hier sur l'ensemble du territoire national. À Bandiagara, une région proie à des conflits intercommunautaires, les populations veulent saisir cette opportunité pour se réconcilier. Un atelier de validation du recueil des instruments juridiques sur la prévention et la lutte contre les violences basées sur le genre s'est tenu hier. Il ressort de cette rencontre que 45% des femmes de 15 à 49 ans ont subi des actes de violence physique et sexuelle au Mali. Le dossier de la rédaction s'intéresse au tapeur de Bazin à Sikasso, aussi à Bamako, le mutier est presque à l'arrêt. Dans la capitale du Kénédougou, il continue de résister à l'évolution du temps. Tout de suite, le développement de ce titre avec Sekou Gadjigo, mise en onde Gagny Kanté. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Tout d'abord, cette information, les autorités maliennes ont mis en garde hier jeudi contre toute instrumentalisation de la CEDEAO par les autorités ivoiriennes. La Côte d'Ivoire a déclaré mercredi dernier vouloir saisir l'organisation ouest-africaine pour trancher la crise qui l'oppose au Mali, une crise consécutive à l'interpellation et la détention de ses soldats à Bamako. Les autorités maliennes ont dénoncé dans un communiqué le revirement des autorités ivoiriennes qui ont estimé que leurs soldats étaient retenus en otage au Mali alors qu'elles avaient reconnu des manquements et incompréhensions lors de la libération de 49 soldats il y a 11 jours. Ce revirement grave ne vise qu'à manipuler et à entraver la manifestation de la vérité, a déclaré le gouvernement malien. Nous y reviendrons plus en détail dans nos éditions du soir. Le président de la transition a lancé hier à Bamako la première édition de la Semaine nationale de la réconciliation. Les activités de la CENARE se déroulent sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora à Bandiagara, région du centre du Mali, touchée par les conflits intercommunautaires. Les activités ont été lancées au pied du monument Nagabanou Tembeli. L'événement a enregistré la participation d'autorités administratives et des responsables communautaires. Le reportage de notre correspondant à Bandiagara, Adama Djigiba.
S'il y a une région qui a aujourd'hui besoin de réconciliation, c'est bien celle de Bandiagara. Confrontée à des conflits intercommunautaires alimentés par le terrorisme, les populations de la région veulent mettre à profit cette semaine pour se réconcilier. Le représentant de la chefferie Peul de Bandiagara affirme que c'est une heureuse occasion de sortir des crises pour l'Oba.
Heureusement que toutes les bonnes volontés se sont réunies pour qu'on puisse être là aujourd'hui. Donc ça, c'est le signe de la vraie réconciliation. Il n'y avait même pas de problème. Ce qu'ils ont créé là, c'est sûr et certain qu'ils ont regretté, mais ils ont peur de dire qu'ils ont regretté. Franchement, hein, Bandiagara là, on ne peut pas parler de race ou autre chose. Vraiment.
Le chef d'état-major de la milice de chasseurs d'Ougon, Dana Mbasago, a appelé ses compatriotes toutes ethnies confondues à regagner Bandiagara et autres localités du pays d'Ougon. Pour Youssouf Toloba, cette semaine devait réunir les régions de Mopti, Bandiagara et Douanza.
Moi, je voulais donner un document de sortie de crise pour les trois régions, à savoir Mopti, Bandiagara et Douanza, parce que la réconciliation doit se faire entre ces trois régions. J'aurais même souhaité que ces trois régions organisent cette semaine ensemble.
Le gouverneur de la région a déclaré que la réconciliation entre les fils du pays est bien possible. Plusieurs activités vont meubler cette semaine de la réconciliation. Une journée de prière est prévue ce vendredi dans toutes les mosquées et dimanche dans toutes les églises. De Bandiagara, Adama Djigiba pour Studio Tamani.
Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur nos réseaux sociaux à travers notre page Facebook et notre compte Twitter. À Niono, les autorités se mobilisent pour la réouverture de toutes les écoles fermées dans le cercle cette année. En prélude à la rentrée scolaire prévue pour le 3 octobre au Mali, le directeur du centre d'animation pédagogique a rencontré la semaine dernière tous les acteurs de l'école du cercle. Selon le DECAP, 54 écoles sont à ce jour fermées dans le cercle à cause de l'insécurité. Le reportage de notre correspondant Ségou Mohamed Cissé de retour de Niono.
Il s'agissait à travers cette rencontre de trouver une solution afin que les écoles fermées à cause de l'insécurité soient rouvertes lors de la prochaine rentrée scolaire. Modibo Mamadou Traoré, directeur du centre d'animation pédagogique de Niono.
Nous avons fait une analyse de la situation. Alors donc, j'ai demandé à ce qu'on regarde d'ici la rentrée pour me dire quelles sont les écoles qu'on pourrait rouvrir à la rentrée.
Les écoles fermées dans le cercle de Niono l'ont été sous la menace des présumés djihadistes. Ces hommes armés restent toujours présents dans certaines localités du cercle. Malgré cette situation d'insécurité, le directeur du CAP fonde espoir sur une réouverture des écoles fermées. Modibo Mamadou Traoré.
Nous espérons. Je sais que réellement, il y a des problèmes. Mais nous sommes en train. Je ne le ferai pas seul. Je suis avec les acteurs de terrain qui sont les hommes politiques qui sont responsables de ces communes-là. J'ai bon espoir que beaucoup d'écoles vont s'ouvrir parmi ces 54 écoles-là d'ici la rentrée.
Il faut rappeler que malgré la fermeture de ces écoles fermées, le CAP de Niono a obtenu 42,66% lors des derniers examens du DF. Depuis Niono, Mohamed Cissé pour Studio Tamani.
Je vous le disais dans le titre, 45% des femmes de 15 à 49 ont subi des actes de violence physique et sexuelle au Mali. Par ailleurs, 49% de la même tranche, mariées ou divorcées, ont subi des violences émotionnelles et psychologiques. Ces informations ont été communiquées ce jeudi par le ministère de la Justice. C'était lors d'un atelier de validation du recueil des instruments juridiques sur la prévention et la lutte contre les violences basées sur le genre. La rencontre a été initiée par l'ONG Conseil appui à l'éducation à la base CAIEB. Les détails avec Imirana Kilumaïga.
Il s'agit pour les organisateurs d'apporter des réponses appropriées aux violences basées sur le genre. Cette initiative du consortium de Boalafia vise à renforcer la promotion du genre, a indiqué Gaussou Traoré, secrétaire général de l'ONG Conseil et appui pour l'éducation à la base CAIEB.
Pour que vraiment nous puissions avoir des éléments pour permettre au grand public d'avoir des bonnes interprétations par rapport aux textes juridiques en lien avec les questions de violences basées sur le genre, les questions de discrimination à l'égard des femmes et de la fille.
Pour Mohamed Draman Traoré, chargé de mission au ministère de la Justice, des instruments juridiques ont été établis pour assurer la prise en compte des droits des victimes en l'absence de loi sur certaines formes de VBG.
Avec la relecture du code pénal et du code de procédure pénale, il y a des nouvelles dispositions qui sont prévues pour sanctionner les cas de violence basés sur le genre. Pour le moment, comme c'est un projet, on ne peut pas s'attarder à dire que c'est tel article.
Ce document va servir de base pour donner des orientations à tous les acteurs sur le terrain et apporter des appuis considérables pour les communautés, a poursuivi Gaussou Traoré, secrétaire général de l'ONG, Conseil et appui pour l'éducation à la base KEB.
Reportage signé Imirana Kilou Maïga. Le manque de sang devient de plus en plus fréquent dans les centres de santé de Bamako au niveau du Centre national de transfusion sanguine. Le besoin est considérable. Selon plusieurs malades, avoir une poche de sang relève d'un parcours de combattant. Il faut se faire accompagner par un donneur de sang et s'armer de patience. Les responsables du réseau des donneurs volontaires de sang appellent la population à donner du sang pour rehausser le stock dans les banques de sang et soulager les malades. Kwandjara nous en dit plus.
Ces derniers temps, le besoin en sang a considérablement augmenté, comme en témoigne le nombre important de personnes qui viennent chaque jour chercher du sang au centre de transfusion sanguine. Selon des patients rencontrés sur place, pour avoir du sang, il faut être un donneur régulier ou venir avec un proche pour le prélèvement.
Je suis venu pour accompagner quelqu'un pour donner du sang. Parce que je l'ai déjà donné il n'y a pas 3 mois, donc je ne peux plus donner. Et c'est mon grand-père qui a besoin de sang.
Moi, je donne mon sang à chaque 3 mois.
Donc,
si tu viens donner du sang, cela permettra à la banque de sang d'en garder. Ceux qui en auront besoin pourront en avoir facilement. Mon fils a besoin du sang.
Le réseau des donneurs volontaires de sang organise au moins 2 fois par an des journées de don de sang à travers le pays. Selon Adama B. Traoré, un des responsables du réseau des donneurs volontaires, le don de sang est non seulement bon pour les malades, mais aussi pour les donneurs.
Donner du sang, c'est de faire preuve d'une grande générosité. Pratiquement 2 fois par an, nous donnons nos sangs. Et en cas de besoin seulement, les gens nous contactent et on regarde parmi nous des gens qui sont aptes à donner. Voilà, on ne donne pas son sang uniquement pour sauver des vies. on le donne pour soi-même également.
À Bamako, près de 300 poches de sang sont mises à la disposition des hôpitaux, des CCRF chaque jour selon les autorités sanitaires. Elles estiment que le Centre national de transfusion Jangune n'arrive pas à couvrir le besoin annuel par manque de donneurs réguliers.
8h08 à Bamako, nous restons toujours dans la capitale. L'eau potable est toujours recommandée pour une vie saine, alors qu'à Bamako, de nombreux habitants s'insurgent contre la qualité de l'eau consommée. Ils remettent en question l'hygiène de l'eau du robinet, mais cet avis n'est pas partagé par d'autres qui estiment que l'eau du robinet reste propre et naturelle. Les acteurs de l'hygiène publique alertent sur les conséquences liées à l'usage de l'eau non propre. Le reportage d'Adjaratou Konaté.
L'eau du robinet est utilisée par une grande partie de la population à Bamako. Certains trouvent que cette eau n'est pas assez saine pour être consommée.
Si tu mets l'eau du robinet dans un récipient pendant un moment, tu remarques que c'est propre en dessus et sale en dessous.
Je mentirais si je disais que l'eau du robinet était propre. Tu mets l'eau du robinet dans un gobelet, il y a des débris et c'est coloré. Est-ce que ce sont nos tuyaux qui sont sales? Vraiment, je ne saurais le dire.
À mon avis, c'est propre.
Certains utilisent les comprimés qu'on vend dans les pharmacies pour filtrer. Et d'autres aussi y mettent de la permanganate. Beaucoup de nos maladies sont dues à l'eau du robinet.
L'association des consommateurs du Mali affirme qu'elle n'a pas été alertée sur la qualité de l'eau. La présidente, Madame Koulibaly Salimata Diarra, estime néanmoins qu'il y a des dispositions à prendre avant la consommation de l'eau du robinet.
Je n'ai pas vu de trace. Je crois qu'il faut voir au niveau des tuyaux. Si les tuyaux sont assez vieux et qu'il n'y a pas les changements à certains niveaux, bien entendu, ça conduit à des résultats comme ça. Il y a des dispositions à prendre. Quand on prend l'eau du robinet, on ne le boit pas avant de laisser reposer un peu pour voir si c'est sale. À ce moment-là, il y a moyen de bouillir pour assainir.
Cet avis est aussi partagé par les spécialistes de santé. Mais ils préviennent d'abord sur les risques liés à l'usage de l'eau non potable. Boubou Kanté, épidémiologiste à la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique.
Quand on boit de l'eau non potable, les conséquences peuvent être nombreuses. Ça entraîne des maladies telles que le diarrhée, le vomissement, une épidémie telle que le choléra qui peut entraîner la mort. Le traitement qu'il faut en général, c'est la chloration de l'eau. C'est-à-dire on met de l'eau de javel dedans. Si ce n'est pas propre, cela veut dire qu'on peut voir la couleur n'est pas bonne. Il y a peut-être des débris dedans. On doit filtrer d'abord.
Sur cette question, la SOMAGEP n'a pas pour l'instant répondu à nos sollicitations.
Reportage signé Adjaratou Konaté, 8h11 à Sikasso. Le métier de tapeur de bassin continue de résister à l'évolution du temps dans la capitale du Kénédougou, même si le travail n'attire plus autant de gens comme c'était le cas il y a quelques années. Des tapeurs de bassin vivent de cette activité. Ils rencontrent toutefois des difficultés liées notamment au comportement de certains clients, selon eux. Pourtant, les clients, eux aussi, n'ont pas le même regard sur le travail des tapeurs de bassin. À la rencontre des tapeurs de bassin à Sikasso, un reportage de notre correspondant Christian Dako.
Doudou Konaté est tapeur de bassin dans un quartier de Sikasso. Il fait ce travail depuis des années et affirme en vivre dignement.
Bon, j'arrive à subvenir à mes besoins. Le seul souci est qu'on ne vient pas les récupérer. Sinon, il y a des jours où nous rentrons à la maison satisfaits.
Comme Doudou Konaté, beaucoup de jeunes de Sikasso évoluent dans ce secteur. Ils sont pour la plupart ressortissants d'autres localités. Selon eux, les tapeurs rencontrent beaucoup de difficultés.
Certains ne viennent plus récupérer leurs habits. Cela fait plus de 20 ans qu'on garde des habits ici. Nous ne pouvons ni les porter, ni les vendre. Nous arrivons à gagner notre vie. Mais le souci, c'est que certains ne reviennent plus. Quand la tenue se déchire, on nous dit aussi de le rembourser.
Quand nous perdons ces habits, on nous dit de les rembourser. Depuis 2018, il y a des bassins qui sont ici.
Dans la capitale du Kénédougou, le travail des tapeurs de bassin est diversement apprécié par les clients.
Certains sont compétents, d'autres non. Je pense qu'ils sont efficaces. Ça dépend de la qualité du bassin que tu amènes.
Bon, souvent chez d'autres, c'est bien fait. Par contre, il y a d'autres qui frappent jusqu'à. Ils performent même les tissus souvent.
Même s'ils s'accusent mutuellement, tapeurs et clients sont des inséparables. Chaque partie est donc appelée à corriger les reproches qui lui sont faits. Christian Dako, Sikasso pour Studio Tamani.
Studio Tamani, c'est Roma de Nino. Suède, Danemark, Suisse, et la République tchèque gouvernement fait, Kafara Union Européenne.
Écho de nos régions en quelques brèves, plus d'une soixantaine de professeurs ont clôturé mercredi dernier, 14 septembre, un atelier de 10 jours de formation sur le renforcement des capacités des enseignants en apprentissage d'approche par compétences. Cette formation visait à renforcer les connaissances et les compétences des formateurs d'enseignement secondaire général en perspective de la nouvelle rentrée scolaire. La session a été organisée par le ministère de l'Éducation à travers l'Académie d'enseignement de Koulikoro avec l'appui du projet MICRA. 64 enseignants et directeurs d'école ont débuté hier jeudi à Yelimane une formation de 5 jours. La session organisée par l'Académie d'enseignement de la localité vise à renforcer les capacités des enseignants sur la pédagogie d'enseignement des classes regroupant des élèves de niveaux différents. 8h14 minutes se referme cette édition. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site studiotamani.org ou en appelant au 37 321. Merci à toutes et à tous. C'était à la présentation Sekou Gadjigo, mise en onde Gagné Kanté. Tout de suite le magazine. Les préparatifs pour la rentrée scolaire 2022-2023 ont déjà commencé. Élèves et parents tous actifs pour la circonstance. Cependant, les parents d'élèves déplorent la cherté des fournitures scolaires, mais aussi ils se disent préoccupés par la situation qui prévoit le gouvernement et les enseignants signataires du 15 octobre. Le magazine Tous les enfants du Mali s'intéresse au sujet aujourd'hui. Il est présenté par Fatoumata Kodjo.
Les parents d'élèves s'inquiètent des achats à faire à départ de la rentrée des classes. Selon eux, tout est cher sur le marché.
On n'est pas encore prêt pour la rentrée. Les fournitures sont chères cette année. Il y a la pauvreté, on ne sait pas quoi faire.
Je me prépare, mais la vie est dure. Imagine avoir 3-4 enfants du premier et du second cycle, alors que le sac et les autres fournitures sont chers.
Les enfants qui sont chez moi pour les vacances, leur retour a été retardé à cause de la cherté des articles. J'ai commencé mes achats de fournitures scolaires. L'école nous offre des cahiers, donc j'aide mes jeunes frères et sœurs à préparer la rentrée scolaire.
Les élèves de leur côté se disent prêts pour entamer la nouvelle année scolaire. Certains ont commencé à prendre des mesures pour la circonstance.
Je suis prêt pour la rentrée des classes, car je passe à une classe supérieure.
Je dois faire la 7e année à la rentrée. Je vais me consacrer à mes études et laisser les divertissements. Je vais acheter un nouveau sac, mais pas d'habits sauf la tenue scolaire.
Pour la rentrée scolaire, le docteur Morike Dambélé, enseignant-chercheur à l'Université des sciences humaines de Bamako, département sciences de l'éducation, préconise l'apaisement scolaire. Il ajoute que l'école doit être l'axe fondamental des autorités de la transition.
Le premier impératif, c'est d'apaiser le climat scolaire et de maintenir l'école debout dans un contexte de refondation de l'État. C'est l'école qui est justement le pilier essentiel de la refondation de l'État malien. Le deuxième élément, c'est que la transition politique au Mali doit profiter tous les secteurs de développement du Mali.
Les pédagogues interpellent l'État à réorganiser le système éducatif et à rester à l'écoute des besoins de l'éducation, avant d'ajouter que les parents d'élèves et les élèves doivent s'impliquer aussi. C'est la fin de ce magazine. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro.
C'était le magazine Tous les enfants du Mali.